Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous Face. Il y a quelques semaines, nous vous proposions une émission consacrée à notre part d'animalité, centrée sur les émotions. Et ce matin, coup de projecteur sur leurs intelligences. Vous le savez, pendant longtemps, les animaux étaient considérés comme des machines dénuées de grandes capacités cognitives, de conscience de soi, d'empathie, de sens de la justice ou encore d'humour. Des expressions comme esprit bovin, âme battée, cervelle d'oiseau ou bête à manger du foin sont encore réservés à nos frères humains les plus sots. Et il me semble que le grand corbeau qui m'observe régulièrement sur le rebord de ma fenêtre montre davantage d'intelligence que certains polémistes d'extrême droite qui sévissent sur une pseudo-chaîne d'information. Vous verrez justement que les corvidés sont dotés de compétences cognitives équivalentes à celles d'un enfant de 5 ans, que les manchots sont de véritables surdoués, que le poulpe pourrait prétendre à un prix Nobel en matière de mémorisation, d'apprentissage ou encore d'adaptation à son environnement. Vous verrez également que les animaux sont dotés d'un sixième sens. C'est mercredi, les petits et les grands peuvent nous poser leurs questions au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de l'émission. Bienvenue dans Grand Bien vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous Fasse.
Bonjour Yolaine Delabigne.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste, grande voix de la radio pendant longtemps sur Radio France et France Info particulièrement. Vous avez publié chez Larousse Les secrets de l'intelligence animale et vous dirigez l'ouvrage collectif Les intelligences animales et vous êtes la fondatrice de l'université d'été de l'animal. Ça se passe où et quand?
C'est en Bretagne, au domaine de la Bourbansais. C'est du 27 au 29 août. Donc elle a juste avant la rentrée scolaire.
En Ille-et-Vilaine. Bonjour Jessica Serra.
Bonjour Ali.
Vous êtes docteur en éthologie, vous œuvrez pour différents organismes de recherche et pour des entreprises et vous êtes l'autrice d'un livre absolument passionnant. Vous avez reçu pour cet ouvrage il y a quelques semaines, La bête en nous, publié chez Humaine Science. Bonjour Benoît Grison.
Bonjour Ali.
Docteur en sciences cognitives, biologiste et sociologue des sciences, enseignant-chercheur à l'université d'Orléans et vous publiez Les portes de la perception animale chez Delachaux et Niestlé. Alors pour commencer, j'aimerais citer le romancier Douglas Adams, l'auteur du guide du voyageur galactique, hein, c'est un exergue de l'un de vos chapitres, Jessica Serra. L'homme a toujours considéré qu'il était plus intelligent que les dauphins sous prétexte qu'il avait inventé toutes sortes de choses, la roue, New York, les guerres, etc. Tandis que les dauphins, quant à eux, n'avaient jamais rien su faire d'autre que déconner dans l'eau et plus généralement prendre du bon temps. Mais réciproquement, les dauphins s'étaient toujours cru plus intelligents que les hommes et précisément pour les mêmes raisons, Jessica Serra. Pourquoi cet exergue?
Alors j'avais trouvé cette citation extraordinaire, ce qui permettait à mon sens de relativiser un petit peu l'intelligence en elle-même, c'est-à-dire l'intelligence c'est un concept pluriel qui a emprunté des chemins évolutifs différents. Et donc il me paraissait important de se positionner du point de vue de l'animal aussi et d'apporter un nouveau regard sur le concept même d'intelligence.
Yolaine Delabigne, pourquoi cet intérêt pour les intelligences animales au pluriel? Alors, et vous y tenez?
Oui, c'est très important parce que justement au début quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, je ne pouvais pas empêcher justement de comparer. Je me disais alors, est-ce que le dauphin est plus intelligent que l'homme? Et en fait, c'est idiot de se poser la question. Parce que chacun a son intelligence, et c'est ça qui est absolument génial. Le dauphin est mille fois plus malin que nous sur l'écolocalisation, par exemple, dont je pense Benoît nous parlera, ou d'autres choses, alors que évidemment nous, on a inventé un ordinateur, on est allé sur la Lune. Mais le dauphin, il s'en fout d'aller sur la Lune. Ça ne l'intéresse pas du tout. Donc en fait, chaque animal, et Darwin l'avait déjà dit, a l'intelligence qui lui sert.
Benoît Grison.
Tout à fait. Et je préfère le terme cognition à intelligence, parce qu'intelligence est très anthropocentré. Cognition, ça renvoie au comportement adaptatif, aux capacités de mémorisation, de perception, qui, comme le dit très bien Yolaine, crée un couplage entre l'animal et l'environnement. Il est très bien adapté à son environnement et nous sommes désadaptés à beaucoup d'environnements.
Jessica Serra, les humains se sentent bien souvent supérieurs aux bêtes. Et je l'ai dit, bête est associée à stupidité, à la bêtise, à une personne qui a peu ou pas d'esprit. Et puis nous avons en tête cette pyramide cognitive avec à la base des êtres considérés comme inférieurs, hein, comme le poulpe ou le chien. Et on verra qu'ils sont très intelligents, le chien et le poulpe. Et au sommet, l'homme qui domine de l'éclat de son intelligence. Hein. On a souvent ça en tête, hein, Jessica Serra.
Oui, alors le mot bête en lui-même crée quelque part une dichotomie entre l'homme et l'animal, parce qu'on est une bête si on est une créature non humaine, mais on est aussi une bête si on est une personne stupide qui n'a peu ou pas d'esprit. Et donc, on comprend finalement que cette dichotomie, elle va créer aussi une dichotomie au niveau de l'intelligence. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas humain ou qui s'en rapproche ne serait pas intelligent. Et donc, on comprend que forcément, on a une vision très anthropocentrée, encore une fois, de l'intelligence ou de la cognition. Et surtout, on a cette image de cette pyramide cognitive dont la base serait constituée d'être inférieure et qui culminerait en son sommet en l'homme, en fait. L'homme serait évidemment le sommet à atteindre, et puis à chaque fois qu'on gravirait les marches de cette pyramide cognitive, eh bien on augmenterait nos capacités cognitives, l'espèce animale serait douée d'une intelligence supérieure. Or, il n'en est rien, cette pyramide cognitive, c'est un fantasme. L'image qu'on a, encore une fois, de la cognition est très anthropocentrée, et puis nous sommes biaisés par tout un tas de biais cognitifs, hein, notamment celui du principe de la taille. On est persuadé que plus l'individu est petit, et je pense notamment aux insectes, moins il est intelligent. Je pense aussi au principe du milieu. Plus l'animal vit dans un milieu différent du nôtre, plus on pense que finalement il serait peu doué d'esprit. Je pense notamment aux poissons. Et aussi, on base, si vous voulez, notre principe de raisonnement sur la ressemblance morphologique. Plus un animal nous ressemblerait, plus finalement il aurait un degré cognitif élevé. Et on voit que finalement, ces trois façons de penser et cette manière de penser la pyramide cognitive est totalement anthropocentrée parce que, évidemment, l'intelligence, on la retrouve chez des espèces animales extrêmement variées et très éloignées de nous également d'un point de vue morphologique et génétique.
Benoît Grison.
Oui, en biologie de l'évolution, c'est bien que ce qu'on appelait autrefois le gradisme est faux. Le gradisme, c'était une fausse vision de l'évolution qui remplaçait l'idée de l'être humain roi de la création par l'idée de l'être humain sommet de l'évolution. Or, c'est pas vrai, ça. C'est-à-dire que on va pas du simple au complexe, des animaux invertébrés, bien invertébrés, à l'espèce humaine. Non. Par exemple, la skimante, qui est un crustacé, qui vit en zone indo-pacifique, est capable d'avoir une vision des couleurs qu'on ne peut même pas concevoir. 12 photorécepteurs. 12 cônes pour les couleurs contre 3 chez l'être humain et l'abeille. Donc, qui est le plus fort? En ce qui concerne la vision des couleurs, c'est peut-être la skimante, peut-être en tout cas beaucoup plus fort que nous. Donc tout ça n'a pas de sens. Les animaux sont très complexes, tous. Et ils ont des degrés de complexité de spécialisation que parfois nous n'avons pas. De même, nous avons un certain nombre de points forts cognitifs.
Yolaine de la Bille.
Alors, ce que j'aurais rajouté, c'est que le langage, c'est un instrument de pouvoir, hein, et il nous a toujours permis justement à mépriser l'autre. Donc, on a méprisé les animaux, mais on a méprisé aussi les femmes, les étrangers, tout ce qui est pas comme nous. Ils sont toujours nuls et on a toujours. C'est vrai. Ah, c'est une des premières choses. Et moi, j'insiste. Je suis désolée, Benoît, je vais lui faire de la peine, mais j'aime bien le terme intelligence. Cognition, c'est très scientifique. Intelligence, c'est un terme très grand public. Et justement, qui nous remet un peu les choses en face. Et dernière chose que je voulais rajouter, c'est ce que j'adore dans les intelligences animales, c'est que c'est une école de la tolérance. En fait, on se rend compte que tout le monde, on est tous hyper intelligents. Il n'y a pas de bêtises, finalement. Ça n'existe pas dans cette terre. Il y a des formes d'intelligence, mais bien du ver de terre jusqu'à l'énarque, on a tous une forme d'intelligence. Et du coup, ça vous rend très tolérant par rapport aux autres et par rapport à soi-même.
Oui, mais vous n'allez pas être désolé, Yolaine, parce que la cognition, c'est quoi? C'est juste une définition un petit peu plus évolutionniste et scientifique de l'intelligence.
Oui, c'est ça.
Et des formes, du polymorphisme de l'intelligence. Sur le langage, je voudrais rajouter aussi le terme de brut qui a prévalu dans la philosophie occidentale pendant des siècles. Les brutes, c'était, chez Descartes et autres, les animaux, c'est-à-dire c'était de la matière vivante brute, pas sensible. Souvenez-vous que Descartes considérait qu'il n'y avait pas de sensibilité et encore moins de perception de la douleur chez l'animal.
Alors les définitions de l'intelligence sont diverses, mais sur quoi s'accorde-t-on quand on parle des intelligences animales? On parle de quoi? D'adaptation face à une situation, de la capacité à raisonner, à apprendre, à mémoriser, à comprendre ou bien à résoudre des problèmes? On s'accorde sur quoi quand on parle des intelligences animales?
Alors, en fait, qui dit intelligence dit déjà perception. La perception, c'est déjà la cognition. Il faut être capable de percevoir finement les stimuli importants pour sa survie dans l'environnement et son adaptation. Ensuite, ça suppose aussi de la mémorisation. Stocker ces informations perçues de façon à construire après des stratégies comportementales fines, adaptées à un environnement changeant qui parfois peuvent être carrément des stratégies de raisonnement. Donc vous voyez, il y a une espèce de triade, perception, mémoire, et ensuite, utilisation des informations en mémoire pour des stratégies comportementales souples et parfois de type raisonnement.
Moi, je donnerais juste un exemple, justement, pour illustrer ça, puisque vous parliez des pieuvres et du poulpe tout à l'heure, Ali. Ouais. On a découvert, il n'y a pas très longtemps, la pieuvre mimétique. Elle est capable, en une seconde, de se transformer en 18 animaux qui sont des prédateurs pour être sûr de ne pas avoir peur d'elle-même. Vous vous rendez compte, elle voit arriver un poisson. Elle est capable de savoir ce poisson, quel est le prédateur qui lui fait peur, et de se déguiser, de se transformer dans cet animal. Pour l'instant, on n'en a vu que 18, il y en a sans doute plus. Ça, si c'est pas une forme d'intelligence délirante.
On évoquera tout à l'heure l'intelligence du poulpe ou de la pieuvre. Jessica Serra, comment étudiez-vous en tant qu'éthologue, l'intelligence animale, il est essentiel de se projeter dans son univers. Exemple, quand je regarde une fleur, eh bien, je ne la vois pas de la même manière qu'une abeille. Comment faites-vous pour vous mettre au niveau de l'abeille? Moi, je vois une jolie fleur, l'abeille voit une spirale hypnotique formée par des ondes ultraviolettes. Comment vous y prenez en tant que scientifique?
Alors c'est une tâche très ardue en fait. Je pense que beaucoup d'entre nous échouent. On essaie de créer des protocoles expérimentaux qui soient le plus adaptés justement à la représentation mentale que l'animal se fait du monde. Ça c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut se baser dès le départ sur l'idée que chaque espèce animale a sa propre représentation du monde. Et ça c'est réellement ce par quoi il faut se positionner en premier lieu pour créer un protocole expérimental qui soit adapté à l'espèce animale investiguée. Je pense notamment à ce fameux test du miroir, vous savez, pour tester la conscience de soi. C'est un test qui est très connu en éthologie parce que on va positionner une petite tache de peinture sur le visage, sur la face de l'animal. On va l'endormir, le réveiller, on va le positionner devant le miroir et si l'animal essaie de se débarrasser de la tache de peinture, c'est qu'il est capable de reconnaître son reflet dans le miroir et c'est donc qu'il est capable d'avoir une conscience de lui-même. Mais dans ce test-là, on a remarqué que les espèces qui étaient hautement visuelles parvenaient très bien à réussir ce test, tandis que d'autres espèces, telles que le chat par exemple, n'y parvenaient pas, ou très peu. Et ce qu'on avait oublié là-dedans, c'est qu'il y a des espèces qui se reconnaissent essentiellement sur des critères olfactifs et non pas visuels. Et donc finalement, on a raisonné de manière anthropocentrée en se disant, mais nous, si on se reconnaît dans le miroir, c'est qu'on a une conscience de nous-mêmes. Donc les animaux qui se reconnaissent dans le miroir ont aussi une conscience d'eux-mêmes, en oubliant que beaucoup d'animaux et beaucoup de mammifères notamment se reconnaissent avant tout sur des indices olfactifs. Donc forcément, les tests qu'on va designer ont des limites et il faut toujours repenser, toujours se replacer dans la tête de l'animal pour véritablement concevoir, designer de nouveaux tests qui soient vraiment adaptés à la question sur la cognition qu'on va se poser.
Et je précise que ce test du miroir a été élaboré dans les années 1970 par le psychologue américain Gordon Gallup. Des précisions, Benoît Grison?
Oui, je ne peux que renchérir sur ce que dit Jessica. C'est vrai qu'au départ, c'est primato-centré. Nous sommes un grand singe culturel, nous, êtres humains. Et on a commencé à faire ces expériences, et Gallup et ses collaborateurs, sur le chimpanzé. Mais quand on est passé à un animal que je connais mieux, peut-être que le chat, Jessica est une grande spécialiste du chat, au chien par exemple, on s'est dit, on comprend pas, c'est ambigu, il a pas l'air de se reconnaître dans le miroir, alors qu'on savait déjà quand même à l'époque, même si c'était moins net que maintenant, qu'il a de grosses capacités cognitives, qu'il a été longtemps sous-estimé. Ah oui, c'est un olfactif, ce qu'on appelle un macrosmatique, c'est-à-dire que il a un odorat hypertrophié, ainsi que chaque propriétaire de chien le sait.
C'est pour ça qu'il vous sent derrière, et en vous sentant derrière, il sait exactement qui vous êtes et toute votre carte d'identité. C'est une forme d'intelligence un peu particulière.
Il est insensible par contre à la morphologie très diversifiée des autres races de chiens. Pour lui, un chien, c'est toujours un chien, parce qu'il a les mêmes phéromones, il a les mêmes signatures olfactives de chien.
Jessica Serra, j'aimerais qu'on s'arrête sur l'une des preuves de notre supériorité sur l'animal, c'est l'utilisation de véritables outils. Ce fut longtemps la preuve de notre supériorité intellectuelle, mais la littérature scientifique a bien montré que, par exemple, les chimpanzés étaient des maîtres en la matière. Ils utilisent des outils variés qu'ils transmettent de manière intergénérationnelle. Et certains parlent même de véritable culture à ce sujet-là.
Oui, tout à fait. Alors les chimpanzés, effectivement, sont des maîtres en la matière. On a de très très nombreux exemples d'utilisation d'outils chez cette espèce animale. Et surtout, ce qui est important, c'est que non seulement ils utilisent des outils divers en fonction de l'objectif qu'ils se fixent, donc ils sont capables d'anticiper l'objectif à venir. Je pense notamment à certains chimpanzés qui mastiquent des feuilles, qui vont utiliser comme éponge pour s'abreuver. On connaît tous l'image des chimpanzés avec leurs bâtons pour extirper des fourmis ou des termites dans le nid. D'autres encore qui vont fracasser des noix de palme en choisissant un matériau bien spécifique pour cet ouvrage. Et puis d'autres qui vont aiguiser des branches, qui vont mâcher l'extrémité de la branche pour l'aiguiser et s'en servir comme lance, hein, et attraper des petites proies. On en a même aussi qui utilisent des grands bâtons comme canne à pêche pour recueillir des algues dans l'eau. Donc on voit que les exemples sont extrêmement diversifiés. Et ce qui est important, c'est que cela nécessite un apprentissage de longue haleine, qui est un apprentissage social. Donc les petits apprennent en général en regardant les autres. Et c'est pour ça qu'on parle de transmission culturelle, parce qu'on a observé que suivant le groupe de chimpanzés auquel on s'intéresse, l'utilisation d'outils ne se fait pas de la même manière. Donc on voit bien que ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui a été découvert par un individu à un instant T et qui est ensuite transmis au cours des générations dans le groupe de chimpanzés qu'on étudie.
Benoît Grison.
Oui, et ça c'est tout à fait fascinant. Et on retrouve aussi ce genre de comportement, conçu de façon anticipée chez certains corbeaux. Par exemple, des corbeaux néo-guinéens qui ont été beaucoup, beaucoup étudiés par des collègues australiens, qui sont capables de préparer des brindilles à la bonne taille pour trouver et dégager un invertébré dans une anfractuosité, mais calibre. La brindille, ils prennent leur temps, ce qui veut dire qu'il y a vraiment une anticipation cognitive. Vous avez aussi des hérons qui récupèrent dans les endroits où il y a trop de fréquentation anthropique, comme on dit, hein, humaine, les croutons de pain que les gens laissent pour les oiseaux, par exemple, sur un étang, et qui essaient d'attirer ainsi des poissons, ce qui est aussi une stratégie d'anticipation cognitive. Et puis pour finir, on en parle beaucoup en ce moment, il y a les crocodiliens qu'on a tellement sous-estimés sur le plan cognitif ou intellectuel, comme vous voulez, Yolène. Et les crocodiliens utilisent souvent des petites brindilles pour attirer des oiseaux. Hein ?
Alors j'aimerais qu'on écoute une archive consacrée à l'intelligence des corbeaux.
En fait, on va lui poser un problème, donc c'est une tâche où on propose deux nourriture qu'elle va devoir chercher à récupérer. Alors dans le premier cas, on pose la nourriture à l'intérieur d'un crochet, comme ça. Et le seul moyen, finalement, pour l'oiseau de récupérer la nourriture, c'est comprendre qu'il faut tirer sur ce crochet. Et pour tirer sur le crochet, il faut tirer la ficelle. Voilà.
Mais on va compliquer la tâche.
Alors voilà, pour être sûr que vraiment l'oiseau a compris de quoi il retournait, on va lui proposer un piège, l'option alternative. Donc c'est également une nourriture très très appétante. Cette fois, si on tire sur la ficelle qui est connectée au crochet, ben là, il ne se passe rien.
Donc l'oiseau doit comprendre que c'est ici qu'il doit tirer s'il veut avoir droit à un petit verre.
Voilà, donc il va falloir qu'il explore le dispositif.
C'est-à-dire que l'oiseau, là, est en train de réfléchir, finalement.
Oui.
Comme nous, on pourrait le faire face à un problème de la vie quotidienne.
À peu près comme nous, voilà. Il faut vraiment comprendre que l'oiseau va regarder, va explorer un petit peu, donc il va tester deux ou trois éléments, et puis ensuite ça va lui permettre de comprendre comment résoudre la tâche.
Extrait du Monde de Jamy en 2017, Jessica Serra, on l'entend là, les corbeaux sont dotés d'une intelligence exceptionnelle et on compare même certaines de leurs capacités cognitives à celles d'un enfant de 4 ou 5 ans, hein, c'est ça hein.
Oui, tout à fait. Les corbeaux, et puis je pense aussi à certains perroquets, notamment au perroquet gris du Gabon, Alex, hein, qui était extrêmement connu à travers le monde. C'était le perroquet de l'éthologue Irène Pepperberg. Et ce perroquet était capable, lui, d'émettre des sons, d'émettre des mots. Et donc ça a bouleversé beaucoup de gens parce que là encore le langage comme le propre de l'homme, eh bien on voit que parfois les frontières sont un peu plus perméables et ce qui était bouleversant c'est que ce perroquet était capable non seulement de prononcer des mots mais dans des contextes très différents, il ne faisait pas que répéter, il maîtrisait des concepts et ça c'est vraiment important comme découverte parce qu'il était capable de maîtriser des concepts très différents comme plus grand que, plus petit que, différent d'eux et son éthologue décrit même qu'il était capable de faire preuve d'humour. Et l'humour, ça nécessite quand même des compétences cognitives hautement développées parce qu'il faut saisir qu'une situation est finalement incongrue par rapport au réel. Et on comprend bien à quel point cet animal, comme beaucoup d'oiseaux qu'on a longtemps sous-estimés, sont extrêmement intelligents. Ces descendants des dinosaures qui continuent de nous épater à travers différentes expériences éthologiques.
Benoît Grison, sur l'intelligence des corvidés, des corbeaux.
Oui, l'intelligence des corvidés, déjà, alors la conscience de soi éprouver une manière visuelle, parce que, par exemple, ce superbe corvidé noir et blanc qui est Lapis, qu'on oublie toujours que c'est un corbeau, se reconnaît parfaitement dans le miroir. Et puis, ils ont cette capacité qui était bien évoquée dans le reportage de 2017 qu'on a entendu tout à l'heure, d'inhibition avant d'agir. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait un psychologue du 19e siècle, l'Écossais Benn, un des premiers pionniers de la psychologie scientifique, qui disait « réfléchir, c'est être capable d'inhiber son action ». Eh ben, un corbeau, mais aussi un perroquet, est capable, quand il est face à un problème complexe, de réfléchir, de prendre la distance par rapport à la situation pour anticiper finement ce qu'il va faire. Bon, et les corvidés à ce niveau-là sont fascinants, j'ai pas à dire ce qu'a dit très bien Jessica. Ils maîtrisent, tout comme les perroquets, certaines catégories, certains concepts. Ils sont capables de comprendre ce qu'est un triangle ou un cercle, etc. Et puis alors, en ce qui concerne les corvidés, on a découvert tout ça et leurs outils. Mais en ce qui concerne les perroquets, je pense que le grand déclic pour les chercheurs, c'est quand ils ont compris que le fait que le perroquet joue avec le langage, parce qu'on sait maintenant que c'est ludique, en répétant les choses, c'est pas qu'il n'était pas capable de comprendre certains mots humains appris ou certains concepts. C'est parce que, effectivement, à cause de ses caractéristiques sensorielles, notamment auditives, il aime répéter des mots de façon ludique. Mais il peut aussi en comprendre et les utiliser à bon escient.
Yolaine de Labigne.
Je crois en fait que la plupart des oiseaux sont très intelligents. Par exemple, si on parle de calcul mental, on sait que le pigeon sait calculer jusqu'à 9, ou que la poule, que tout le monde méprise, un poussin à sa naissance, il sait déjà compter jusqu'à 5. Nous, à la naissance, on ne sait pas compter jusqu'à 5. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, on a parlé de communication. Je pense que c'est un des domaines où l'animal nous bluffe énormément, parce qu'en fait, nous, on a évidemment un langage hyper sophistiqué et assez extraordinaire, mais ils ont des tas d'autres façons que nous découvrons de communiquer. La communication électrique, par exemple, qui est incroyable entre une fleur et une abeille. Quand l'abeille est capable d'avoir des échanges électriques avec elle, et elle vous laisse un phéromone, ça je trouve ça génial, elle laisse un phéromone, donc comme une odeur, mais qu'on sent pas. Quand elle a pris le nectar d'une fleur, elle laisse un phéromone qui veut un peu dire, en langage très humain, c'est pas la peine de passer parce que j'ai tout pris, il n'y a plus rien à prendre. Et ce qui est dingue, c'est que le phéromone va durer 20 minutes, le temps que la fleur remette sa provision de nectar. Au bout de 20 minutes, le phéromone sera parti et les autres abeilles vont pouvoir venir pour reprendre du nectar.
Ah, vous...
Ou alors les éléphants qui communiquent en tapant avec des ondes sismiques, ils tapent avec leurs pieds et ils sont capables, en silence finalement, de communiquer sans que nous on l'entende, à des kilomètres à la ronde avec leurs copains. Il y a des tas de formes de communication incroyable qu'on découvre.
Oui, alors là encore, il faut bien comprendre que ça ne sert à rien de comparer, hiérarchiser. Par exemple, comme vous l'avez très bien dit, Yolaine, il y a certains animaux qui sont capables d'estimer des quantités, et notamment des insectes, même l'abeille ou les oiseaux. Par contre, il semble qu'ils ne soient pas capables d'opérer, dans la plupart des cas, des opérations justement mentales d'addition ou soustraction, mais peu importe, ils n'ont pas besoin dans leur environnement. De la même façon, le cerveau. En fait, les différents systèmes nerveux centraux ont évolué de façon différente au cours de l'évolution. On a souvent dit que une cervelle de piaf, c'était rien. Hein, tête de linotte, vous savez, oui. Linotte, c'est un petit passereau. En réalité, cette évolution du cerveau avien, elle s'est faite différemment de nous, mais les structures sont tous aussi sophistiquées, mais différentes de celles des mammifères que nous sommes. Et il y a aussi beaucoup de miniaturisation des neurones. Donc ça, c'est très intéressant, parce qu'ils peuvent mettre plus de neurones par centimètre cube. De la même façon, on découvre actuellement, depuis très peu de temps, depuis moins de 5 ans, que les insectes ont aussi une miniaturisation des neurones, et que par exemple, dans un millimètre cube de cerveau, ce qu'on appelle les ganglions cérébroïdes de fourmis, il y a beaucoup plus par rapport au volume de neurones qu'il n'y en a par unité de volume chez un mammifère ou chez un être humain. Donc voilà, cessons de dire il y a des sommets de l'évolution dont on nous ferions partie.
Allez, dans quelques instants, on s'intéresse à l'intelligence du poulpe, de la pieuvre, c'est selon. En attendant, on écoute Aretha Franklin, Think. Just stop. I ain't no psychiatrist, I ain't no doctor with degrees. Get on. Vous validez Yolaine Delabigne, Aretha Franklin.
Oh, j'adore. On était tous là à swinguer sur nos petits sièges.
Formidable.
Didier, maintenant Jean-Pierre, c'est papa.
Grand bien vous fasse.
Ça t'embête pas, tu es sûr, tu me dirais.
Bah, bien sûr, je te le dirai sans doute, pas du tout. Tiens.
Bon chien, gentil chien. Le dernier truc dont j'avais besoin en ce moment.
Allez, viens, mais qu'est-ce qu'il y a, un petit con ce chien là?
Sur France Inter.
10h34 et on s'intéresse ce matin aux différentes formes d'intelligence animale de 5 à 95 ans et plus. Nous attendons vos questions au 01 45 24 7000. Je vous propose d'écouter un extrait du documentaire La sagesse de la pieuvre diffusé sur Netflix. La pieuvre qui a su s'adapter et développer son intelligence pour survivre dans un milieu très hostile.
Puis elle se changeait en une vieille dame dans sa robe, toute chancelante. Peut-être pour imiter une algue agitée par la houle, s'éloignant lentement. Elle révélait ainsi ses dons exceptionnels pour le camouflage. Une pieuvre, c'est finalement un escargot privé de sa coquille par l'évolution. Un animal très fragile, fluide, mou, qui dépend de sa formidable intelligence. Elle n'a eu aucun parent pour lui enseigner quoi que ce soit. Elle est seule parmi tous ces prédateurs qui la guettent. Alors, sur des millions d'années, elle a dû inventer les méthodes les plus incroyables pour les leurrer.
Extrait du documentaire La sagesse de la pieuvre diffusé sur Netflix. Vous l'avez vu, hein, Yolaine Delabigne. Je rappelle que vous dirigez l'ouvrage Les intelligences animales.
J'ai adoré, évidemment. Parce que c'est un animal. Il y a même des scientifiques qui s'amusent à dire qu'il est extraterrestre parce qu'il a une intelligence tout à fait exceptionnelle avec notamment le sens de dimension puisqu'une poulpe est capable de s'enfuir par des tout petits trous. Et d'ailleurs, ça pose des tas de problèmes au laboratoire souvent quand ils travaillent avec des poulpes. Et ils sont super malins. Je me souviens du Prince des profondeurs qui est un très très joli livre tout qui raconte fait. Que chacun a sa personnalité. Il y en avait un qui s'appelait Édouard, je crois, qui avait ça le caractère. Il voulait pas travailler. Donc à chaque fois, il envoyait de l'eau pour faire cramer l'électricité. Il y arrivait, finalement, il le relâchait parce qu'il était insupportable. Non, un des mystères du poulpe, et il le dit d'ailleurs, c'est que, en fait, la maman meurt quand elle fait ses petits. Donc, on ne sait pas comment les poulpes arrivent à apprendre entre eux. Il n'y a pas d'imitation des parents, etc. Or, ils sont d'une intelligence absolument inouïe. C'est vrai, absolument. Benoît, ça reste un mystère, le poulpe, quand même.
Je rappelle que vous publiez Les portes de la perception animale. Pourquoi les scientifiques sont-ils autant fascinés par leur intelligence tentaculaire?
Eh ben, parce que d'abord, c'est un phénomène de convergence évolutive. Ils ont des yeux presque comme nous, ce qui est quand même extraordinaire pour un cousin de l'escargot, comme le disait ce documentaire. Et puis, effectivement, c'est des êtres tellement différents et proches de nous à la fois. Proches par l'intelligence, l'être humain, par la forme de l'intelligence, hein, dont on parlait tout à l'heure de forme d'intelligence, est très très différent. Il a l'air d'un extraterrestre par rapport à sa structure, son anatomie, son cerveau n'est pas entièrement centralisé, en partie dans ses bras. Bon. Et puis il est proche et différent de nous, à la fois par la forme d'intelligence et pas parce que il n'est pas sociable ou peu sociable. Effectivement, il n'est pas éduqué par sa maman, le poulpe, c'est moi qu'on puisse dire, parce qu'elle meurt très vite. Et en même temps, c'est très subtil, parce qu'on s'aperçoit que certains poulpes, aussi individualistes qu'ils soient, sont capables de vivre en communauté relative pour mutualiser des ressources alimentaires. C'est le site d'Octopolis en Australie. Et puis on s'aperçoit que s'ils sont peu sociables, ils sont capables de comprendre finement leurs congénères. Bon, alors, par exemple, en fait, ils expriment leurs émotions par les couleurs de leur corps, par leur chromatophore. Et on sait maintenant que les poulpes perçoivent les couleurs. Et donc, ils décodent leur, état émotionnel les uns les autres. Un poulpe, c'est très bien quand un congénère est en colère. Ou au contraire, plutôt, on dirait, c'est un peu anthropomorphique, de bonne humeur. Bon, puis ce qui est très curieux, c'est qu'on a donné récemment, alors ne vous scandalisez pas, c'était à petite dose et ça n'avait aucun effet irréversible, de l'ecstasy, du MDMA, à des poulpes.
Ils ont adoré.
Et alors, ils ont adoré parce que chez l'être humain, vous savez que ça accroît la sociabilité, on est tous sociables autour de cette table. Si vous prenez cette chose, ce que je ne conseille à personne, là, vous êtes amis avec tout le monde. Et puis, c'est là où on voit la convergence cérébrale. Les poulpes deviennent sociables.
Ils se rapprochent les uns sur des
autres. Ils deviennent amis quand ils ont pris du MDMA, de l'ecstasy. Donc, bon, c'est un animal hallucinant et avec des grosses capacités cognitives qui n'a rien envié aux dauphins, aux corbeaux qu'on évoquait.
Que peut nous apprendre le poulpe? Le journaliste Nicolas Santolaria dans Le Monde répond de cette manière. On peut apprendre du poulpe sa manière d'habiter le monde à base de camouflage, de mimétisme comportemental et de science de l'esquive. Hélène Delabigne, le sens de l'esquive du poulpe.
Magnifique, oui. Et puis l'adaptation. Voilà, c'est ça qui est génial. C'est que j'ai l'impression que le poulpe va s'adapter partout où il est. S'il est dans quelques mers, et on le voit très bien d'ailleurs dans le documentaire. Il y a quelque chose, alors qui est très anthropomorphique, hein, mais qui est quand même assez magnifique. C'est qu'elle sait qu'elle va mourir, puisque c'est une femelle. Elle va faire des petits, donc elle sait qu'elle va mourir. Et c'est la seule fois où elle se plaque contre le plongeur, mais vraiment comme si elle voulait le prendre dans ses bras pour lui dire au revoir. Alors, vous allez me dire que là, j'interprète, c'est vrai, mais lui aussi a interprété. C'est quand même incroyable, vous passez 6 mois avec un poulpe, et puis à un moment, avant de mourir, elle vient se plaquer contre vous, comme faire un gros câlin, puis elle s'en va, et elle revient plus parce qu'elle va mourir, c'est dingue.
Jessica Serra, je rappelle que vous êtes éthologue. On a découvert dans la baie de Jervis, au large des côtes est de l'Australie, eh bien, on a découvert 2 sites construits par des pieuvres qui ressemblent étonnamment à des cités, hein.
Oui, tout à fait. Ce sont les sites d'Octopolis et d'Atlantis. Alors, Atlantis, c'est une contraction d'Octopus et d'Atlantis, hein, pour la petite histoire. Donc, c'est des sites qu'on a retrouvés au large des côtes est de l'Australie. Et les pierres, en fait, bâtissent des murs, des abris, en s'aidant notamment de coquilles de palourdes qu'elles ont méticuleusement entreposées pour l'occasion. Et ces cités servent, puisqu'on les appelle de véritables cités, hein, servent de points de regroupement. Donc c'est très étonnant parce qu'on décrivait ces céphalopodes comme étant plutôt solitaires. Mais en vérité, ils vont se rassembler, échanger des informations et même chasser des individus étrangers. Et forcément, nous avons beaucoup de mal à imaginer les incroyables facultés cognitives de ces animaux parce qu'encore une fois, nous appliquons les fameuses règles intuitives dont je vous avais parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la proportionnalité entre l'intelligence et la proximité génétique avec l'homme, comme si finalement ces individus qui ont l'air extraterrestres, qui sont dépourvus de squelettes et qui pour autant sont dotés de 500 millions de neurones, hein, qui sont répartis entre leur encéphale, leur lobe optique et leurs bras. Donc c'est vraiment, quand on regarde ces animaux, on peut être que fasciné par la manière dont l'évolution les a fabriqués. Et la deuxième règle qu'on applique sur cet animal, c'est celle encore du milieu de vie, parce que c'est un animal aquatique, tout de suite c'est un animal qui serait peu intelligent. Or, on l'a vu, ces animaux sont capables de construire ces cités, et pas seulement, ils maîtrisent également des outils, ils vont se servir de coquilles de noix de coco pour s'en servir donc de protection contre les prédateurs. Et puis surtout, comme Yolaine l'a souligné, on a cette fameuse pieuvre mimétique qui est absolument incroyable. Donc on est aujourd'hui subjugués véritablement par leurs capacités cognitives et on a des équipes d'éthologues entières qui travaillent à mieux comprendre cet animal fascinant parce que justement il incarne le fait que l'intelligence à emprunter des chemins évolutifs différents.
Et je vais vous avouer que je vais regarder sous un autre œil ma salade de poulpe.
Oh, non, faut plus la manger le poulpe.
Voilà. Alors Jean-Baptiste nous demande s'il serait possible de vraiment parler avec les animaux et de se comprendre. Est-ce que ce sera possible un jour, nous demande Jean-Baptiste. Qui veut répondre, Jessica Serra?
Oui, je le pense. Je le pense parce qu'aujourd'hui, on arrive à capter les pensées humaines et via l'intelligence artificielle. Et je pense que l'intelligence artificielle a vraiment de beaux jours devant elle et qu'il sera tout à fait possible, en effet, de capter certaines pensées animales, peut-être pas toutes. Et je pense qu'à ce moment-là, quand nous arriverons à capter ces pensées-là, nous aurons probablement très honte de la manière dont nous avons traité les animaux pendant des siècles.
Benoît Grison.
Oui, moi je suis assez optimiste aussi. On découvre la complexité des langages animaux et donc c'est plutôt qu'on est en retard dans le décryptage, la sémantique, hein, comme disait linguiste de ces systèmes de communication, mais comme le dit Jessica, à un moment donné, on pourra, du moins les spécialistes de certaines espèces, communiquer de manière interspécifique correctement. Hein, oui.
Jessica Serra, les animaux crient, grognent, cancanent, sifflent, meuglent, mais sont-ils capables de véritables phrases ? Prononcent-ils de véritables phrases et sont-ils dotés d'un vocabulaire ?
Oui, alors ça c'est des recherches qui sont assez récentes, hein, qui ont montré, qui ont finalement désacralisé un petit peu le langage humain en montrant que certaines spécificités du langage humain pouvaient être trouvées chez les animaux. Alors je pense notamment au vocabulaire oral, le fait de prononcer des sons qui ont un sens pour les congénères. Eh bien ça aujourd'hui on sait que la majorité des espèces animales qui vont prononcer des sons, eh bien ces sons-là vont avoir effectivement un son pour leur partenaire. Au-delà de ce vocabulaire oral qui signifie quand même que les animaux échangent des informations importantes entre eux, eh bien l'homme est capable de créer des phrases, c'est-à-dire d'ordonnancer différents mots pour donner un sens global différent des mots pris à part, qu'on appelle la syntaxe. Mmh. Et on a montré, c'est une équipe de recherche française qui l'a formidablement démontré, chez le singe Mon de Campbell, que non seulement ce singe est capable d'émettre des mots, ce qui s'apparente à des mots différents en fonction du prédateur qui est en approche, mais d'apposer à ces mots des suffixes ou de combiner différents sons et donc de faire preuve de syntaxe. Donc là encore, on a une barrière homme-animal qui s'effondre et qui montre que finalement, on va retrouver par des phénomènes de convergence évolutive, différents types de caractéristiques du langage humain et que aujourd'hui, enfin, on ose parler de langage chez les animaux. Et sur ce point-là, je tiens à souligner aussi que les modes de communication chez les animaux sont extrêmement variés et différents, parce qu'on a tendance à vouloir absolument retrouver ce qu'on utilise nous, c'est-à-dire le langage oral chez les autres, mais on oublie que chez les mammifères, le langage olfactif est omniprésent, c'est-à-dire on a finalement une idée très parcellaire de la communication olfactive qui est pourtant extrêmement complexe, extrêmement riche et qui est porteuse de milliers d'informations, des informations qui sont codées et qui peuvent être lues par les autres animaux à distance puisque les animaux laissent des odeurs qui peuvent être perçues parfois jusqu'à 24 heures plus tard et qui sont porteuses de sens pour les animaux qui vont les décoder.
Yolaine de la Bigne.
Juste pour compléter ce que disait Jessica, Florence Lévrero, qui va venir à l'université Été de l'animal et qui est primatologue, elle explique qu'en fait les gibbons aussi ont le sens de la syntaxe et qu'on est même en train de se demander si c'est pas comme ça qu'a démarré le langage humain, donc on fait des études là-dessus, parce qu'en fait quand vous avez des singes qui sont à couvert, ils se parlent d'une certaine façon, mais quand par contre ils vivent dans la jungle où ils ne se voient pas, ils sont obligés, et c'est le cas des gibbons, de développer un langage hyper sophistiqué pour prévenir leurs copains ou se parler alors qu'ils ne se voient pas. Donc c'est intéressant aussi, ça dépend du milieu dans lequel ils vivent.
Benoît Grison.
Oui, là, c'est des recherches en plein développement qui éclaireront sans doute en partie le problème de l'origine du langage humain.
Absolument.
Qui a longtemps été un problème tabou scientifiquement dont on disait qu'on ne pourrait pas l'approcher. Puis on est passé des années 1990, il y a bien longtemps maintenant, où on a montré que certains singes associent, comme les vervés, certaines vocalisations à un certain concept. Par exemple, l'aigle qui risque de me manger, on prévient les copains, ou bien le léopard a l'idée qu'il y a des syntaxes, au moins des protophrases, si ce n'est des phrases chez beaucoup d'animaux. Et je rebondis sur ce que dit Jessica, on oublie toujours la communication chimique, qui peut être un code, en fait, langagier extrêmement subtil et qui a en plus l'intérêt d'être émanant. Les messages peuvent rester longtemps. Hein. Et on parlait science-fiction en ouvrant cette émission. Il y a des auteurs de science-fiction qui ont cru précisément que c'était purement fictionnel, qui a 100 ans de ça ou 80 ans de ça, imaginez des extraterrestres qui communiqueraient par la chimie. Mais en fait, ils sont autour de nous, avec les espèces animales, et notamment les trop méprisés invertébrés.
Alors, vous évoquiez la communication symbolique chez les grands primates. Oui. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, Jessica Serra. On n'a jamais entendu deux perroquets ou deux poulpes échanger des discussions philosophiques.
Oui, oui.
Là, je fais, c'est un peu café du commerce, mais
on n'en sait rien.
C'est vrai qu'on n'en sait rien.
On n'en sait rien.
Mais Yolaine, vous avez
si ça se trouve, ils sont en train de parler de l'émission en disant, écoute, pas mal. J'ai entendu, mais il y avait quand même des choses sur les perroquets qu'il a pas dit.
Mais oui, c'est vrai. Jessica Serra, peut-être qu'ils nous écoutent et qu'ils échangent des propos philosophiques ou pas sur ce qu'on est en train de se dire.
Alors oui, bah, c'est vrai qu'on n'en sait rien. Cela dit, je pense qu'il reste une différence aujourd'hui, en tout cas jusqu'à ce qu'on démontre le contraire, mais probablement entre l'homme et l'animal, ce qui a été différenciant, à mon sens, hein, c'est le fait de faire voyager ses pensées dans l'univers de l'imaginaire et de la fiction. Et ça, je pense que ça a été fondamental pour que l'homme, finalement, transporte encore une fois sa manière de penser sur des choses finalement invisible. Et donc, on discutait tout à l'heure de la danse de la pluie chez les chimpanzés. Moi, j'ai adoré traiter de cette anecdote dans mon ouvrage parce que c'est un comportement qui avait été relevé déjà dans les années 70, c'est-à-dire c'est les chimpanzés qui vont se mettre à brandir des bâtons lorsque la pluie est forte ou lorsqu'il y a des orages.
C'est Jane Goodall,
et ça, c'est Jane Goodall, tout à fait, qui avait parlé la première de ce comportement-là. Et ça signifie finalement que les chimpanzés déjà vont interpréter des faits non sociaux, donc des faits environnementaux, comme des faits sociaux doués d'intentionnalité. Et donc il y a toute une série de chercheurs qui sont intéressés à ce comportement et qui y entrevoient les prémices quelque part de la religion. Parce que qu'est-ce que c'est d'autre que finalement imaginer qu'effectivement quelque chose d'autre viendrait tirer les ficelles du monde du réel. Je pense que les chimpanzés y parviennent à travers le manifeste, à travers cette danse de la pluie, même si évidemment on a beaucoup encore à apprendre sur les capacités de ces animaux quant aux pensées symboliques. Mais s'attribuer le monopole des capacités d'abstraction, de la pensée symbolique, moi je pense qu'effectivement l'homme est particulièrement doué dans ce champ-là, mais que probablement on retrouve les prémices de ce type de pensée chez d'autres animaux.
Les animaux savent-ils qu'ils ne savent pas certaines choses ? Eh bien, élément de réponse, juste après Julien Doré qui interprète Kiki.
De mon cœur tu tombes. Dis-moi si tu sais te tenir à ton ombre, te tenir à leurs idées. C'est la peur qui gronde. Dis-moi si c'est vrai qu'on a cassé le monde, qu'on a le dernier ticket. Mais toi t'auras ton style comme Kylian Mbappé, et tu seras libre. Pas de tigre, ni de gens s'aimer. Ils étaient trop fragiles, ils l'ont dit à la télé. De mon cœur tu plonges, dis-moi si tu sais compter les secondes sans tomber dans l'abîme. C'est la peur qui hurle, qu'il te faut susurrer. Te faire entendre sans trop te faire remarquer. Mais toi t'auras ton style comme Kylian Mbappé, et tu seras libre si t'es pas fatigué. Tu verras pas de tigre ni de gens s'aimer. Ils étaient trop fragiles, ils l'ont dit à la télé. Il arrive, toi au moins tu sais, tout ça tient qu'à un fil qu'on a mal déroulé. Tu sais, c'est la honte qui me sert de papier. J'ai dessiné ta tombe avant même de te bercer. Et si ça résonne, et si demain te plaît, faudra que tu pardonnes. On était fatigué. Et si ça résonne, et si demain te plaît, faudra que tu pardonnes. On était fatigué.
Julien Doré interpréter Kiki.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
10h53 et on s'intéresse ce matin aux différentes formes d'intelligence animale. Je vous propose d'écouter le primatologue et éthologue Franz Wall.
Chaque animal a son propre intelligence et l'intelligence adaptée à la situation où il a besoin. Nous, comme hommes, on est très impressionnés par le genre d'intelligence que nous, on a. Comme par exemple, on a la langue, on utilise des outils. Et on est très impressionnés par ça. D'intelligences qui sont très différentes de nous, il y en a plein, on n'est pas tellement impressionnés. Par exemple, une chauve-souris peut attraper un insecte dans une chambre complètement noire. Et c'est très complexe ce que la chauve-souris fait. Mais on n'est pas tellement impressionné parce que nous, on ne fait jamais ça. Alors, on est très préoccupé avec l'intelligence comme nous. Et c'est pour ça que le chimpanzé, qui est comme nous, qui est très proche de nous, on peut comprendre les chimpanzés, ils utilisent des outils et on va essayer de leur apprendre de parler et tout ça. Ça nous impressionne, mais si un octopus fait quelque chose, ça ne nous impressionne pas tellement parce que c'est très différent.
Le primatologue et éthologue Frans De Waal sur France Culture en 2018. Un mot, Yolaine Delabigne, sur ce scientifique très important pour notre compréhension de l'intelligence animale.
Oui, parce que c'est un des premiers qui a un peu posé les bases de l'empathie animale, parce que là aussi, tout le monde avait mal interprété Darwin en disant « Oui, c'est la loi de la jungle, il n'y a que nous qui sommes généreux, les animaux, c'est épouvantable, ils s'entretuent. » Et en fait, pas du tout. L'entraide, c'est vraiment une des lois de la jungle. Parce que quand on est plus fort, quand on est plus nombreux, on est plus fort, et c'est comme ça. Et Frans De Waal a été un des premiers à prouver l'empathie, notamment chez les singes.
Benoît Grison, je vais vous poser une question digne du bac philo. L'animal,
c'est la saison.
L'animal a-t-il conscience qu'il sait qu'il ne sait pas?
Ah, alors moi je dirais qu'il y a beaucoup d'êtres humains déjà qui n'ont pas conscience de leurs limites cognitives. J'ai toujours remarqué que les meilleurs experts, y compris en science, c'est ceux qui savent vous dire ça, je ne sais pas. Ils savent circonscrire leur zone d'ignorance. Maintenant, ça supposerait, si l'animal était capable de faire ça, qu'il soit capable de développer ce qu'on appelle, désolé Yolaine, la métacognition, c'est-à-dire des raisonnements à propos de ses propres raisonnements. Hein, essayer d'un peu sous-peser ses propres raisonnements, les sous-peser pour savoir s'ils sont justes. Alors, on soupçonne que certains grands singes seraient capables d'une telle métacognition, d'une telle réflexion sur leur propre pensée. Mais de là à penser que certains animaux réfléchissent sur les limites de leur connaissance, on ne sait pas. En tout cas, nous, on a du mal à réfléchir sur les limites de notre connaissance, à être modeste.
Réflexion d'auditeur Mathilde qui nous dit « L'intelligence supérieure d'une espèce ne résiderait-elle pas dans le fait qu'elle n'essaie pas perpétuellement de prendre le pouvoir sur une autre ?» Un autre auditeur, Annie, une auditrice, Annie, nous dit « Je me demande si les hommes sont vraiment intelligents vu l'état de la planète. Nous avons beaucoup à apprendre des animaux. » Lucas nous demande, question très intéressante, « Est-ce que les animaux sont dotés de créativité ? Ont-ils un sens artistique comparable à celui des humains ?» Jessica Serra, en quelques mots.
Un sens esthétique, ça oui, notamment les oiseaux. On a beaucoup d'exemples de préférences esthétiques chez les oiseaux. Je pense notamment aux oiseaux jardiniers qui construisent des structures absolument incroyables qu'on appelle des berceaux, qui nécessitent un degré de sophistication important, puisqu'il faut élaborer deux parois verticales et surtout ils entreposent derrière ces parois verticales une série d'objets de différentes couleurs et selon un gradient qui permet de faire paraître plus grand ces objets aux yeux de leur dulciné. Donc vous vous rendez compte, c'est quand même quelque chose qui nécessite un savoir-faire et surtout ces berceaux sont légèrement différents d'un mâle à l'autre et sont réellement magnifiques. Et puis l'évolution apparaît les mâles, surtout les oiseaux mâles, de joyaux esthétiques. On pense forcément à la roue du paon qui est absolument incroyable et on voit bien que les femelles sont sensibles aux attraits de ces mâles et que donc encore une fois, elles ont un sens du beau, un goût pour le beau. Quant à la créativité, c'est une question qui reste en suspens en fait, parce qu'on n'a pas encore des expériences qui démontrent, mais on pense que chez certains animaux bien équipés cognitivement parlant, effectivement, ils pourraient faire preuve de. En tout cas, on sait qu'ils font preuve de créativité pour résoudre des problèmes. Donc, pourquoi pas dans le sens du beau.
Benoît Grison, il faudra que vous reveniez pour parler du supposé sixième sens des animaux.
Volontiers.
Hein, parce que c'est une émission à part entière qu'il faudra consacrer à ce thème. Merci infiniment Jessica Serra, Benoît Grison, Les portes de la perception animale, c'est publié chez Delachaux et Niesley. Yolaine Delabigne, l'université d'été
de l'animal, 27-29 août, et vous avez toutes les infos sur l'animalet-l'homme.com.
Merci beaucoup. Et on peut lire avec profit également les intelligences animales. Merci à vous,
Yolaine
Delabigne. À demain.